Vous écoutez On lit pour vous.
Est-ce que c'est encore loser d'habiter chez ses parents à l'âge adulte? Un texte de Yasmina Léveillé paru le 15 juin 2026 dans Urbania. En attendant d'emménager avec ma blonde, je suis retourné vivre chez mes parents après 10 ans de vie en appartement. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis de retour dans la maison de mon enfance et à date, ça se passe plutôt bien. Je travaille, je paie mes affaires, je fais mon lavage. Par contre, ma mère a réquisitionné ma chambre parce que c'est le meilleur endroit dans la maison pour observer le jet bleu et le cardinal. Même si c'est temporaire, j'éprouve une légère honte à dire que j'habite chez mes parents à presque 30 ans. Aujourd'hui encore, habiter chez ses parents reste associé à une image peu glorieuse. Le vieux cliché de l'adulte loser. Quand je pense à un adulte qui habite encore chez ses parents, c'est l'image d'un vieux gars croûté dans le sous-sol de sa mère qui me vient à l'esprit. Il passe l'entièreté de ses journées à gamer dans ses boxers sales et dit « doigts de pied » pour désigner ses orteils. Ce spécimen de rapouilleux existe probablement, mais en réalité, beaucoup d'adultes qui vivent chez leurs parents travaillent, étudient et économisent. En 2017, Statistique Canada rapportait que 74% des adultes de 25 à 64 ans vivant avec leurs parents occupaient un emploi rémunéré. Une personne sur 5. Statistique Canada, My Guy, a d'ailleurs publié en août 2025 une étude sur les adultes vivant avec leurs parents. En 2021, un Canadien sur 5 vivait dans un ménage intergénérationnel composé de parents et de leurs enfants adultes. Les milléniaux de 25 à 39 ans sont environ 2 fois plus nombreux à vivre avec leurs parents que les baby-boomers au même âge. Vivre chez ses parents à l'âge adulte n'est donc plus une anomalie. Un reportage de CBC News sur le sujet montrait des profils variés. Des gens qui restent chez leurs parents pour économiser en vue d'une mise de fonds, d'autres qui reviennent après une rupture ou une perte d'emploi, certains qui le font pour prendre soin d'un parent malade, et plusieurs pour qui c'est simplement devenu la solution la plus viable face au coût de la vie. Pas les mêmes parents, pas la même maison, pas le même contexte. Mon père m'a dit quelque chose qui résume probablement toute la différence entre sa génération et la mienne. Moi, à 28 ans, j'aurais pas aimé retourner chez mes parents. Mais c'était pas les mêmes parents, pas la même maison, pas le même contexte. Pour lui, partir représentait une urgence. La maison de son enfance était petite, rigide, silencieuse. On se parlait pas comme vous autres vous vous parlez aujourd'hui, m'a-t-il dit. Il avait hâte de partir. Quand il décrit la maison familiale de son enfance, il parle surtout de routine. Le lundi, ça sentait l'aspirateur. Le mardi, pâté chinois. Chaque journée avait une odeur. Mon père a quitté le nid familial par besoin de survie et de liberté. C'est sûr que de pouvoir s'acheter un triplex sur le plateau à 8 000 $, ça aidait un petit peu. Pour moi, quitter le nid familial ne signifie pas fuir une dynamique qui m'empêche de m'affirmer ou de m'exprimer. Je ne fuis pas un lieu. Plutôt, c'est comme si je voulais en découvrir un autre. Je suis consciente que ce n'est pas le cas pour tout le monde et je me sens chanceuse d'avoir une complicité et une proximité avec mes parents. Ils sont psychologues. Lol. C'est sûr que les normes entourant le départ du domicile parental varient selon les contextes culturels et familiaux. Dans certains milieux et cultures, quitter la maison tôt est associé à l'indépendance et à la réussite adulte, tandis que pour d'autres, rester plus longtemps chez ses parents, ou y revenir temporairement, est non seulement accepté, mais parfois considéré comme une façon normale de fonctionner, qui s'inscrit dans une dynamique de solidarité familiale. En 2021, parmi les milléniaux nés au Canada, les personnes racisées, 39,4%, étaient presque 3 fois plus susceptibles de vivre chez leurs parents que les personnes non racisées et non autochtones, 14%. Cela étant dit, ce n'est pas juste une question de culture. Il y a aussi la question importante. Est-ce que retourner chez mes parents est physiquement possible? Ont-ils une chambre pour moi? Est-ce qu'ils l'ont transformée en observatoire d'oiseaux? Entrer et sortir de l'autonomie. Au-delà des enjeux économiques, plusieurs études démontrent que la transition vers l'indépendance est aujourd'hui plus longue et plus fragmentée qu'avant. Les parcours linéaires, quitter la maison, obtenir un emploi stable, acheter une propriété, prendre sa retraite en Floride, mourir, sont de moins en moins fréquents. Les trajectoires sont désormais cycliques. On vit seul, en couple, en colocation, on effectue un bref retour chez les parents. Autre que le logement, ce changement en dit long sur la manière dont on devient adulte aujourd'hui. C'est désormais moins une étape fixe qu'un état mouvant. Malgré ces chiffres et explications rationnelles, j'éprouve quand même le besoin de préciser que ce retour chez mes parents n'est que temporaire. Une partie de moi trouve quand même que c'est un échec, surtout si je me compare à ma sœur microbiologiste infectiologue. Astuce de pro, ne jamais se comparer à une microbiologiste infectiologue. Je sais que je ne suis pas la seule. Beaucoup de jeunes adultes savent que vivre chez leurs parents fait du sens. Mais une petite gêne persiste. Comme si, malgré tout, il restait un code social invisible qui associe encore l'indépendance à la réussite. J'éprouve une sorte de tension étrange. Économiquement, la décision de retourner chez mes parents est logique. Symboliquement, elle l'est beaucoup moins. Une stratégie d'épargne? À Montréal, vivre seul signifie débourser entre 1 500 à 1 700 $ par mois pour un petit appartement, excluant l'hydro, l'eau chaude, l'Internet, les assurances locataires, la laveuse, la sécheuse, l'air clim et une réponse du proprio quand la porte avant ne se verrouille plus. Chaque année, c'est près de 20 000 $ qu'il faut prévoir pour le loyer seulement. En plus, le prix des logements a augmenté de 900% depuis 1980, tandis que le revenu médian des ménages de 258% seulement. L'écart croissant entre ces deux courbes représente la crise de l'accessibilité au logement. Rester chez ses parents pendant un an, c'est un peu se donner une mise de fonds potentielle. Sur 5 ans, on parle d'une économie de presque 100 000 $. Le verdict? Pas si loser que ça, habiter chez ses parents à l'âge adulte. Aujourd'hui, vivre chez ses parents à 30 ans est souvent une réponse logique à un marché du logement devenu difficile ou une étape temporaire dans une vie qui n'est plus linéaire. On peut y être autonome, travailler, contribuer, économiser, sans que ça fasse de nous un misérable gueux qui squatte le sous-sol. J'aime penser que je ne suis pas retourné chez mes parents. Je suis l'artiste en résidence chez des mécènes. Ça fait royal. C'était « Est-ce que c'est encore loser d'habiter chez ses parents à l'âge adulte? » Un texte de Yasmina Léveillé paru le 15 juin 2026 dans Urbania.
Les Canadiens perdus doivent prouver leur lien avec le Canada à chaque génération. Un texte de David Baxter, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. Environ 4 075 personnes ont été reconnues comme citoyens par filiation à la suite de l'adoption du projet de loi C-3. La ministre de l'Immigration, Léna Diab, affirme que le fait d'avoir un ancêtre canadien ne garantit pas à une personne d'être admissible à la citoyenneté canadienne. Lors de la période de questions mardi, Mme Diab a été mise sous pression par la porte-parole conservatrice en matière d'immigration, Michelle Rempel-Garner, qui lui a demandé de préciser combien de personnes avaient obtenu une preuve de citoyenneté en vertu de la nouvelle loi sur la citoyenneté par filiation en utilisant des documents inexacts. Un nombre indéterminé de personnes ayant reçu des certificats de citoyenneté en vertu de la nouvelle loi ont reçu ce week-end des lettres du gouvernement fédéral leur demandant de restituer les documents. Un communiqué du ministère de l'Immigration indique qu'un nombre limité de personnes ont reçu ces lettres. Un porte-parole du bureau de Mme Diab a précisé par la suite que quelques dizaines de lettres de restitution avaient été envoyées. J'ai été clair. Le simple fait d'avoir un ancêtre canadien ne signifie pas que l'on est automatiquement éligible à la citoyenneté. Il faut prouver de manière irréfutable son lien avec le Canada à chaque génération. Les sites web de généalogie ne suffisent pas, a indiqué Mme Diab mardi. En vertu d'une loi adoptée l'année dernière, les personnes nées avant le 15 décembre 2025 peuvent prétendre à la citoyenneté canadienne si elles parviennent à prouver qu'elles ont un ancêtre canadien. Les données du ministère de l'Immigration montrent qu'environ 4 075 personnes ont été reconnues comme citoyens par filiation à la suite de l'adoption du projet de loi C3. Plus de 13 000 autres personnes ont obtenu la citoyenneté par filiation depuis l'entrée en vigueur de la loi le 15 décembre 2025. Mais elles étaient déjà éligibles à la citoyenneté par filiation en vertu des règles existantes. Les courriers envoyés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, indique que les destinataires n'ont pas fourni de preuves provenant de sources officielles originales ou n'ont pas présenté d'explications écrites ni de preuves attestant de leur démarche pour obtenir ces documents. Bien que ces lettres ne mentionnent pas les raisons précises pour lesquelles la demande d'un bénéficiaire fait l'objet d'un réexamen, elles indiquent que les intéressés auront la possibilité de fournir des pièces justificatives supplémentaires à l'appui de leur demande. Mais les personnes ayant reçu ces lettres se disent perplexes et ne savent pas comment réagir. Sean Davis Mooney, qui a servi dans l'armée américaine et vit désormais à Victoria avec son mari, a reçu son certificat de citoyenneté canadienne au printemps. Il a déclaré avoir reçu samedi un courriel lui indiquant qu'il devait remettre ce document alors que lui et son conjoint se trouvaient dans un parc local en train d'admirer les canards et les paons. J'ai fait changer mon numéro d'assurance sociale, toutes mes pièces d'identité, j'ai payé les frais pour parrainer mon mari en vue de la résidence permanente, ainsi que ceux liés à son permis de travail ouvert de conjoint. Tout cela est probablement en suspens à présent. Nous n'en savons rien, a expliqué M. Mooney. Le choc psychologique est énorme. Je crois qu'aucun de nous n'a fermé l'œil ce week-end. En vertu de la loi, les personnes nées avant le 15 décembre 2025 peuvent prétendre à la citoyenneté canadienne à condition de prouver qu'un ancêtre direct était canadien. Elles doivent également prouver leur ascendance canadienne pour chaque génération précédente. M. Mooney a expliqué avoir mené des recherches généalogiques approfondies et avoir fait appel à un avocat pour présenter 114 pages de pièces justificatives attestant de ses racines canadiennes. Il a indiqué qu'IRCC l'avait contacté à un moment donné pour obtenir des précisions et qu'il avait reçu son certificat de citoyenneté peu après. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans l'incertitude. Puis-je travailler? Ne puis-je pas travailler? Mon mari peut-il continuer à chercher du travail? Allons-nous devoir partir? Nous sommes en train de tout reconstruire. Nous avons littéralement laissé notre vie derrière nous pour en commencer une nouvelle, a raconté M. Mooney. Je me suis très vite sentie chez moi au Canada et je pensais que le pays m'avait accueilli à bras ouverts. Je suppose que ce n'est pas le cas. Un porte-parole du bureau de Mme Diab a indiqué que celle-ci ne serait pas disponible pour une entrevue mardi. Une déclaration d'un porte-parole non nommé du ministère de l'Immigration, publiée après l'intervention de Mme Diab lors de la période de questions de mardi, indique que des agents qualifiés examinent tous les éléments de preuve avant d'approuver un certificat de citoyenneté. La déclaration précise que cet examen s'inscrit dans le cadre d'un processus individualisé visant à déterminer si les certificats ont été délivrés en bonne et due forme sur la base des éléments de preuve requis par la loi. On n'y explique pas pourquoi cet examen est mené après la délivrance des certificats. Le document précise que la situation n'est pas directement liée aux récentes modifications législatives. Un porte-parole de Mme Diab a indiqué que cela faisait référence aux changements survenus lorsque le projet de loi C-3 est entré en vigueur l'année dernière. Rana Charon, dont la citoyenneté canadienne a été officiellement reconnue en mai, a affirmé avoir également reçu samedi une lettre du gouvernement fédéral lui demandant de restituer son certificat de citoyenneté. Madame Charon a expliqué qu'elle avait retracé sa lignée jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère, originaire du Québec. Elle a précisé avoir réussi à trouver des données de recensement décrivant l'enfance de sa grand-mère au Canada avant son départ pour les États-Unis, ainsi que des documents américains indiquant sa nationalité comme franco-canadienne. Madame Charon a confié avoir l'impression d'être confrontée à une boîte noire au sein du ministère, car la lettre de restitution ne fournissait aucune instruction précise. Malheureusement, cela fait en quelque sorte partie du quotidien de mon expérience personnelle avec l'IRCC. On vous dit quelque chose au hasard et vous n'avez aucun moyen de les contacter pour faire le suivi, a dit Mme Charon. Mme Charon a déjà reçu un numéro d'assurance sociale canadien et a indiqué qu'elle avait entamé une demande de passeport. La presse canadienne s'est entretenue avec 4 autres personnes se trouvant dans la même situation que Mme Charon et M. Mounet. La plupart ont indiqué avoir des enfants qui ont également obtenu la citoyenneté canadienne en vertu de la nouvelle loi. Leurs enfants n'ont pas reçu de lettre de renonciation, bien qu'ils aient fourni les mêmes pièces justificatives. Sarah Pesco, avocate spécialisée en droit de l'immigration à Toronto, a souligné que le fait que les adultes reçoivent ces lettres de renonciation, mais pas leurs enfants, ajoute encore à la confusion. Souvent, lorsque ces demandes sont déposées, même dans le cadre de ce que nous faisons pour nos clients, on envoie un dossier familial. Ainsi, si l'on fait une demande pour une famille, les parents et les enfants font leur demande en même temps, a-t-elle expliqué. Chaque demande se voit attribuer un numéro d'identification unique. Mais cela reste étrange car toutes ces demandes s'appuient vraisemblablement sur exactement les mêmes éléments de preuve, à savoir la filiation depuis le parent de référence jusqu'aux demandeurs eux-mêmes. Mme Pesco a indiqué qu'elle comptait environ 50 clients ayant déposé des demandes de citoyenneté par filiation. Elle a précisé qu'aucun d'entre eux n'avait reçu de lettre de renonciation, mais qu'environ un quart d'entre eux l'avait contacté. Jenny Kwan, porte-parole du NPD en matière d'immigration, a adressé mardi une lettre au cabinet de Mme Diab pour demander des explications. Je reçois actuellement des messages de personnes qui envisagent d'intenter une action en justice contre le gouvernement, voire une action collective, car il me semble que de nombreuses personnes reçoivent actuellement ces lettres, nous n'avons aucune idée de leur nombre, et qu'il s'agit de personnes qui ont agi de bonne foi en se fondant sur ce qu'elles pensaient être les règles et en les respectant, a indiqué Mme Kwan après la période de questions de mardi. C'était « Les Canadiens perdus doivent prouver leur lien avec le Canada à chaque génération », un texte de David Baxter, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.
Les blessures invisibles. Une chronique de Philippe Mercure, parue le 8 juin 2026 dans la presse. Anecdote. J'ai pris la porte ce printemps. Non, mon employeur ne m'a pas remercié. Pas plus que ma blonde ne m'a jeté hors du logis familial. La porte en question appartenait à un VUS stationné sur le côté du boulevard Saint-Laurent. Elle s'est ouverte devant moi, juste comme je passais à vélo. Je l'ai prise de plein fouet. Un emportiérage, un vrai, du genre tant redouté par les cyclistes. Bilan des courses, une roue tordue, une côte fracturée, une collection de bleus propres à susciter le respect et la pitié, ainsi qu'une bonne frousse qui mettra du temps à disparaître complètement. Alors que la belle saison commence et que les vélos reviennent en grand nombre dans nos rues, j'ai voulu tirer quelques réflexions de ma mésaventure. Surtout qu'avec les déplacements à vélo en constante augmentation et les voitures toujours plus nombreuses dans nos rues, ces accidents sont voués à se multiplier si on ne fait rien. Sur le coup, ébranlé et occupé à traîner mon vélo brisé à l'aide de mon corps brisé, je n'ai pas eu le réflexe d'appeler la police afin de faire une déclaration d'événement. Mon emportiérage ne figure donc pas dans les données officielles. En parlant de mon accident autour de moi, j'ai recueilli un nombre étonnant d'histoires similaires, certaines bien plus graves que la mienne. Comme moi, plusieurs victimes n'ont jamais rapporté leur accident. On sait que les événements d'emportiérage sont sous-déclarés. On a clairement conscience que les données officielles sont la pointe de l'iceberg, me dit Magali Bebron, directrice des programmes chez Vélo-Québec. Cette sous-déclaration a des conséquences. Elle signifie que les dangers de rouler à vélo en ville sont sous-estimés. Et donc que les bénéfices des aménagements sécuritaires pour les cyclistes le sont aussi. Au moment où l'administration de Soraya Martinez-Ferrada souffle le chaud et le froid au sujet des pistes cyclables, il me semble que c'est important à garder en tête. La mairesse a notamment réduit d'un tiers la piste cyclable projetée sur Hochelaga, dans l'est de la ville, en plus de mettre sur pause celle prévue sur la Cordère. Or, les pistes cyclables inadéquates ou l'absence de pistes cyclables se paye en ecchymose, en fracture, en commotion, en mort. Suzanne Châtelain en 2013 sur l'avenue du Parc, Bernard Carignan en 2015 rue Saint-Denis. On dira que bien des cyclistes sont imprudents et courent après le trouble. Ce n'est pas faux. Mais l'emportiérage est la conséquence d'une faute du conducteur, pas du cycliste. Nul ne peut ouvrir la portière d'un véhicule routier à moins que ce véhicule ne soit immobilisé et sans s'être assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger, indique l'article 430 du Code de la route. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 200 à 300 $. L'an dernier, à partir des statistiques compilées par le service de police de la Ville de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal a publié un portrait des emportiérages survenus à Montréal entre 2019 et 2022. L'analyse soutient la thèse voulant que l'emportiérage ne soit pas lié à la délinquance. Comment le savoir? Dans à peu près tous les types d'accidents de la route, les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes, sans doute à cause de leur impulsivité et de leur prise de risque plus grande. Or, ce n'est pas le cas pour les emportiérages. Même si les hommes sont plus nombreux que les femmes à rouler à vélo, les emportiérages touchent les deux sexes presque également. Cela tend à démontrer que c'est un scénario de collision qui a peu à voir avec le comportement ou la témérité du cycliste, analyse Magali Bebron de Vélo-Québec. Au contraire, dit-elle, les cyclistes moins confiants pourraient être davantage impliqués en n'osant pas prendre leur place sur la chaussée à une distance raisonnable des autos stationnées. Le portrait contient d'autres éléments révélateurs. Une majorité, 70 % des emportiérages rapportés sont survenus sur des routes sans aucun aménagement cyclable, comme dans mon cas. On constate aussi que les bandes cyclables ne semblent pas aider beaucoup. En 2020, ces corridors sans protection formaient 30 % du réseau cyclable, mais comptaient pour 58 % des emportiérages qui y sont survenus. Les cyclistes qui roulent sur ces espaces délimités par une simple ligne de peinture et qui longent souvent des rangées de voitures stationnées ne seront pas surpris de lire ça. À l'inverse, les pistes cyclables protégées comptent proportionnellement beaucoup moins d'emportiérages. D'autres solutions sont à promouvoir. À la suite de pressions de Vélo Québec, l'ouverture des portes à la hollandaise est désormais enseignée dans les cours de conduite. Il s'agit d'ouvrir la porte avec la main la plus éloignée de la poignée, ce qui incite naturellement à s'assurer qu'il n'y a personne dans l'angle mort. Je me demande toutefois quelle est la proportion des automobilistes qui ouvrent vraiment leurs portes de cette façon. La SAAQ et Urgence Santé ont déjà mené des campagnes de sensibilisation, mais j'ai l'impression que le retentissement a été modeste et qu'il faudrait refaire l'exercice. Vélo-Québec espère aussi que certaines nouvelles technologies aideront, comme ces voyants qui s'allument sur le rétroviseur lorsqu'un obstacle est détecté. L'organisme incite également les cyclistes à se tenir à au moins un mètre des voitures stationnées. Je peux vous garantir que c'est désormais mon cas. Si vous n'êtes pas du genre à vous attendrir des blessures des cyclistes, peut-être que l'argument des coups vous touchera davantage. Mon propre emportiérage a nécessité 4 visites chez le médecin, 5 séances de physiothérapie payées par la CNESST, ainsi que des prestations du même organisme, puisque l'accident est survenu dans le cadre de mon travail. Tout ça payé avec nos taxes et nos cotisations. Peut-être que ça coûterait moins cher de mener une bonne campagne de sensibilisation et de prendre l'habitude de porter attention chaque fois qu'on ouvre une portière. C'était « Les blessures invisibles », une chronique de Pierre Mercure, parue le 8 juin 2026 dans la presse.